tendance à me plaire.
Bonjour, c'est Raphaël de l'émission Tendance à me plaire. Aujourd'hui, et comme souvent en ce moment, nous vous proposons à nouveau un best-of de nos meilleurs moments vécus en studio. Au programme, deux invités, Quentin Ménard, comédien, et Pauline Prudhomme, détective privée, qui était invitée mystère. Vous entendrez une chronique ciné d'Olivier, qui nous parlera des films tournés dans les grands espaces, un édito de Bruno, et la Soso Touch, où Sonia répondra à vos nombreuses questions. Bonne émission à tous.
Tendance à me plaire.
C'est à moi. Bon, ça va de mieux en mieux, hein, le confinement. Hein, on ne va plus au cinéma, alors on invite directement les acteurs à l'émission. Mais écoute, pourquoi pas. Mais bon, Raphaël, là, ça va pas du tout. Non, c'est pas possible. Erreur de casting. T'as invité un mec qui a du talent, qui est super mignon et qui montre ses fesses dans sa bande démo. Alors, ça fait maintenant une semaine qu'on a attaché Caro et Soso. Elles n'en peuvent plus. Et imagine quand elles ont appris que ce n'était pas en studio qu'elles verraient l'invité. Des furies, je te dis. Non, mais là, faut faire gaffe. Hein. Elles sautent sur tout ce qui bouge. Hein. Même Pierre Benoît aurait ses chances. Hein. Alors, c'est pour dire qu'elles ont la dalle. Hein. Alors, je déconseille à notre invité de trop bouger, d'ailleurs, pendant l'interview, et surtout de n'ouvrir à personne. Parce que si les filles, c'est compliqué à gérer, il y a aussi des mecs dans l'équipe hein, qui sont bien énervés. Hein. Moi, je ne donnerai pas de nom, Raphaël. Hein. Ah, bah si, juste, viens là, je viens d'en donner. Hein. Bon, alors, ce soir, on parle acteur studio. Vous savez que certains d'entre nous sont passés devant la caméra. Hein. Raphaël a joué un mort, par exemple. Bon, ok, c'est naturel chez lui, vu ses exploits sous la couette. Mais, en fait, tous les autres chroniqueurs sont trop modestes pour dire qu'ils ont joué dans de grands films. Certains ont été figurants, d'autres doublures. Et ben, par exemple, le corps de Kate Winslet, hein, que DiCaprio peint dans Titanic, ben, c'est une doublure. Maintenant, tu peux le dire, Sonia, c'est toi qui as posé. Hein.
Oh, Bruno, chut.
Et le porté dans Dirty Dancing, à vous, c'est toi aussi.
Oui, ça c'est moi. Ouais. Tu m'as reconnu.
Oui. Dans Les Compères, le gars qui se prend une vitre à l'aéroport, ben, c'est Raphaël. Pour lui, c'est naturel de se prendre des portes. Et dans Rocco et ses frères, c'est Olivier qui double Alain Delon. Hein ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? Ah non. Ah pardon.
Rocco Siffredi.
Ah pardon, j'ai mélangé. Oui. Non, il double Rocco dans Alain et ses frères. C'est un autre film, c'est pas le même genre. Bon, dans Boire et déboire de Black Edouard, la doublure alcool, bah c'est Karine. Hein ? Elle finissait les verres entre chaque prise pour pas gâcher, comme elle dit toujours. Et dans Harry rencontre Sally, la doublure jouissance, bah on reconnaît bien la voix de Caroline. Et encore, hein, c'était soft. Hein. Tiens, et dans Retour vers le futur, le conducteur de la DeLorean, bah, c'est Pierre Benoît, le seul qui peut conduire dans le passé sans se faire dépasser. Et puis dans Virgin Suicide, là, hein, la doublure en dépression, bah, c'est Manu, hein, notre spécialiste en Xanax. Hein. Bon, c'est donc entouré de grands professionnels qu'on va recevoir un grand... Qu'est-ce qu'il y a, Sonia ? Oui, je sais, grand et beau, et ça va, on a compris. Hein. Non, mais moi, j'existe plus, moi. Voilà, on est peu de choses, hein, quand même, hein. Bon, on reçoit un acteur, quoi, vous m'emmerdez pas. Allez, bonne émission, les doublures.
Merci, Bruno. Alors, vous pouvez réagir à cet édito et à toutes les chroniques à tout moment via nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Ce soir, on parle de comédie, de fiction, à l'occasion de la venue de notre invité du jour.
C'est l'heure de l'invité.
Alors nous recevons aujourd'hui Quentin Ménard, une personnalité devenue incontournable à Angers, et oui, de par ses nombreuses activités, comédien pour le cinéma, la télé, le théâtre, mais aussi metteur en scène, co-organisateur d'événements autour de l'image, formateur et coach auprès de médecins notamment, directeur d'une friperie, il a même lancé sa propre marque de vêtements. Alors première question qu'on a envie de te poser Quentin, c'est comment tu trouves l'énergie pour faire tout ça finalement ?
Hello, bonsoir à tous.
Salut, Quentin.
Il me reste beaucoup de temps et j'ai même envie de dire que c'est une des choses qui essaie de guider ma vie, c'est que je pense qu'une des plus grandes valeurs, c'est la liberté, de se sentir libre. Et du coup, je fais en sorte d'être assez libre. Donc, en fait, je délègue pas mal de choses.
Ah, c'est la solution.
Ouais,
déléguer.
Donc, vous le savez, c'est parti, c'est bon.
En fait, il se fait doubler. En fait, il joue pas.
Ah. Oh bah si. Peut-être. Donc, alors aujourd'hui, tu es avec nous pour parler de ton activité dans la comédie, et c'est d'ailleurs ce qui nous a inspiré pour le thème de l'émission. Alors, on va commencer par tes débuts. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine? Raconte-nous un peu ton histoire, Quentin.
Oui, alors bah, pour faire vite, du coup, je suis vraiment originaire d'Angers. J'ai grandi à Trélazé. Mes parents sont venus travailler à Trélazé dans les mines d'Ardoise. Ah ouais, famille de mineurs bretonnes et fiers, quoi. Et du coup, en fait, j'avais pas du tout en tête l'idée de faire ce métier. C'est arrivé complètement par hasard. J'étais au lycée Saint-Agnès en terminale. Et la prof de théâtre du lycée m'a repéré dans la cour de récréation et m'a proposé de jouer le rôle principal de la pièce de théâtre du lycée. Voilà. Et donc, sur le coup, j'ai pas voulu. Et puis, je l'ai fait. Puis, ça a été une révélation. J'ai passé mon bac et j'ai arrêté tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais envisagé jusque-là pour essayer de devenir acteur. Voilà comment ça s'est fait.
Voilà, donc tu as eu des formations, Quentin, dans des écoles d'art dramatique, hein ?
Ouais, également. En fait, après le lycée Saint-Agnès, lorsqu'on est angevin et qu'on a personne qui travaille dans le secteur artistique, on se demande comment on va faire. Donc j'ai fait assez naturellement le Conservatoire d'Angers, le Conservatoire d'art dramatique qui existe toujours aujourd'hui et qui est une école qui m'a permis de me former, et ensuite j'ai passé les concours pour les grandes écoles nationales en France, et du coup je suis rentré au bout de 2 ans dans l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, dans laquelle je suis resté pendant 3 ans. Voilà.
D'accord. Et puis tu as fait une rencontre avec ton agent par la suite?
Ouais, j'ai eu une première agent qui s'appelait Guylaine Malaterre lorsque j'étais à l'école. Ça s'est très bien passé, et puis c'est une femme qui a décidé de prendre sa retraite. Et au moment où elle a pris sa retraite, du coup, elle m'a conseillé un autre agent qui créait son agence à ce moment-là, qui s'appelle Claude Viala, et avec qui je travaille actuellement.
Donc, c'est ce qui a déclenché tes premiers rôles pour des fictions et des séries télé. Alors, on a pu te voir notamment jouer le rôle d'un amant livreur de pizza dans Sam, une fiction diffusée sur TF1. Tu as joué le rôle d'un facteur également dans Scène de ménage sur M6, chez Huguette et Raymond. Alors, on a pu te voir dans Crib à Aigues-Mortes sur France 3, dans des publicités, dans des courts et longs métrages. Alors, comment ça se passe pour décrocher ces rôles, en fait? C'est quoi le mécanisme? Comment ça se passe avec l'agent?
Ouais. Alors, en fait, c'est assez. En fait, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Et en fait, évidemment, il n'y a pas de règle du jeu. C'est un métier qui est difficile et passionnant parce qu'il y a un pourcentage de chance qui est évident aussi. Il y a du réseau aussi qui est en question. En fait, l'agent, la plupart du temps, à proprement parler, est là pour nous trouver des castings, mais surtout là pour nous aider à gérer notre carrière et à négocier nos contrats. La plupart du temps, les castings, on va plutôt les avoir parce qu'en fait, on connaît des directeurs de casting avec qui on a des bons liens. Par exemple, à Angers, il n'y a pas de directeur de casting à ma connaissance. Il y en a 2 à Nantes. Et puis ensuite, il y en a évidemment énormément à Paris. Et maintenant, dans le sud de la France, qui est devenue la 2e région en Occitanie où il y a le plus de tournages de séries télé, de cinéma long métrage. Et du coup, c'est plutôt les directeurs de casting qui ont la main sur les castings et qui, du coup, lorsqu'ils ont un acteur à la bonne, leur proposent des projets.
D'accord. Donc, en fait, tu as des relations assez fréquentes avec ton agent. En fait, j'imagine qu'il te coach, qu'il te donne des conseils pour les rôles que tu dois prendre et d'autres que tu peux refuser.
Alors, il n'y a pas tellement de coaching. C'est plutôt, on va prendre un verre ensemble, on va discuter, on va faire un point. Ensuite, lorsqu'il m'envoie un rôle qu'il pense extrêmement intéressant pour moi, évidemment, on va en parler longtemps. Évidemment, je passe beaucoup plus de castings que de projets que je réalise, puisqu'il y a beaucoup de castings qu'on passe et dont on n'a pas les rôles, malheureusement. J'ai notamment un exemple d'un très gros rôle que j'ai failli avoir l'année dernière pour jouer Gérard Depardieu jeune dans le film Des Hommes de Lucas Bellevaux qui est sorti, qui a été programmé à Cannes cette année. Ou pour donner un exemple, voilà, c'était moi qui avais le rôle, on était 1600 acteurs, c'était sur plusieurs tours, et ça a été beaucoup de travail sur plusieurs mois avec mon agent, avec le réalisateur, avec le directeur de casting, pour au final ne pas avoir le rôle, puisque en fait, pour des raisons financières, un producteur belge est rentré dans l'histoire et donc a fait passer un acteur belge à ma place. Donc c'est des histoires comme ça, le cinéma, c'est assez particulier, c'est beaucoup d'histoires aussi de production. Aujourd'hui, en fait, il y a une vraie notion aussi de rentabilité avec les acteurs qu'on va choisir en fait.
Du coup, j'imagine qu'il faut avoir un certain recul, aussi la tête froide, parce que ça doit être assez décevant de faire toute une démarche et de ne pas être pris au final.
Ouais, en fait, c'est vraiment un métier. En fait, c'est un métier plutôt de marathon plutôt que de sprint. En fait, c'est vraiment D'accord. du long terme. Il faut accepter que, en fait, il faut, quand tu vas passer un casting, ton objectif, ça doit pas être d'avoir le casting, ça doit être d'entretenir des liens positifs et honnêtes avec les professionnels avec qui tu travailles pour qu'ils aient envie de retravailler avec toi par la suite. Et D'accord. je pense que c'est en fonctionnant comme ça que ça devient en fait aussi un métier, comme un autre en fait, avec des personnes avec qui on a des partenariats, avec qui on a des liens, et c'est comme ça que ça se construit.
Alors, tu as un book également et une bande démo. Alors ça, c'est incontournable, on imagine.
Ouais, bien sûr, c'est hyper important. Et puis surtout, vous voyez, moi, j'ai décidé de montrer mon cul, c'est important aussi, quoi.
Donc, on va en parler, on va en parler. Alors, juste...
Non, mais voilà, non, oui, une bande démo, c'est bien sûr, c'est hyper important. C'est, ça permet de montrer qui on est, en fait, hein, tout simplement.
Alors, on a un extrait de cette bande démo, on écoute ça tout de suite.
Salut.
T'as dormi là?
Bah oui. On fait comment du coup? Vous signez?
Bah oui, je suppose, je signe.
Tenez. C'est qui lui?
Eh bah, c'est le. Mon. Oh non, t'es pas en train de me faire une crise de jalousie, hein?
Bah, je sais pas. On fait quoi, toi et moi là?
Je m'intéresse beaucoup au sens. Et mon sens le plus développé, moi, c'est l'odorat.
Ouais, j'aime bien, c'est important, quoi, je trouve, les odeurs.
J'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes.
Voilà. Donc, on a pu entendre voilà, des extraits, notamment de scènes de ménage. Alors, tu as rencontré Raymond Huguette, quand même.
Ouais, non, mais oui, c'est génial. Ouais, c'est une belle production pour expliquer un peu. C'est en banlieue parisienne de Paris, c'est dans des immenses hangars. Et en fait, à l'intérieur des hangars, il y a tous les décors de scènes de ménage qui sont reconstitués. Donc, chaque jour, c'est un couple qui va tourner. Donc, on ne va pas croiser d'autres couples. C'est uniquement un couple du matin au soir. Donc là, c'était Huguette et Raymond. Et donc, c'était super. Je suis arrivé ce qu'on appelle au HMC, l'endroit où on se fait maquiller et coiffer le matin très tôt. Et parce que les tournages, c'est un métier dans lequel on se réveille très tôt, en fait. Hein. Les rendez-vous sont souvent à 7h du matin. Et du coup, je les ai croisés au HMC. Et c'était, ils étaient tout de suite absolument adorables. Et,
D'accord.
Et ils sont très talentueux. Ils connaissaient absolument pas leur texte quand ils sont arrivés. Ils ont lu le texte une fois. Ils le connaissaient par cœur. C'était assez impressionnant.
D'accord. Donc, du coup, ouais, Raymond et Huguette. Alors, comment on se prépare à ce rôle de facteur? Tu as dû répéter un peu quand même, j'imagine, pour ce rôle.
Oui, un petit peu. Après, pour faire vrai, la veille, j'étais à l'enterrement de vie de garçon d'un ami à Barcelone.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc, en fait, ça faisait 3 jours qu'on faisait l'enterrement de vie de garçon d'un pote à Barcelone où c'était vraiment le bordel. J'avais un peu l'impression d'être dans Very Bad Trip et j'ai pris l'avion et je suis allé tourner et puis ça s'est enchaîné. Donc, oui, j'ai un peu travaillé, mais après, ça reste une scène relativement simple, j'ai envie de dire.
Oui,
l'idée, c'est surtout de prendre du plaisir, quoi.
C'était Finger in the Nose.
Ouais, non, mais l'idée, c'est de prendre du plaisir, c'est d'y aller détendu, en étant heureux, en fait, et puis ça se passe bien, quoi.
Bon, alors, tu parlais de tes fesses tout à l'heure. Alors, quand même... Alors...
Ah, ça travaille, hein.
Alors, quand même, pour les plus curieux d'entre vous, donc on peut te voir nu, hein, justement, et dans une relation intime à l'écran, dans la fiction Sam. Alors, comment, justement, tu as abordé cette nudité, ces relations intimes à l'écran?
Alors, bah, pour moi, c'était pas un problème à la base, mais après, l'actrice a été adorable. On s'est retrouvés le matin, on en a discuté tous les deux, on a fait connaissance, on s'est dit que voilà, ça allait bien se passer. Après, c'est vrai que des fois, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on arrive sur un plateau de tournage, on a beau être dans un lit autour de nous, il y a une équipe technique d'environ 30 à 40 personnes. Donc, c'est un peu ça qui est différent, mais comme je savais que j'allais passer, alors à la base, il m'avait proposé de mettre un cache-sexe en fait, un espèce de truc juste au niveau du sexe.
Mais ils n'avaient pas ta taille,
mais
c'est ça
en fait, était...
Comment... Ils n'avaient pas ta taille.
Non, mais c'était surtout, en fait, c'était surtout vraiment ridicule, et avec ce truc, je me sentais mais absolument pas à l'aise, et vraiment pas du coup, enfin, vraiment pas sexy en fait, quoi, c'était immonde, quoi. Donc, donc en fait, je leur ai dit, est-ce que c'est ok pour que je le fasse complètement à poil? Parce que quitte à être à poil, autant l'être vraiment. Et donc, j'ai fait ce truc qu'on m'avait conseillé en tournage, c'est-à-dire avant que la prise commence, de se mettre nu, de dire à tout le monde, regardez-moi bien une fois, comme ça, après, on s'est vu à poil et il n'y a plus de stress et voilà quoi. Et en fait, une fois qu'on s'est mis à poil, bah, ça se passe très bien, on n'y pense plus et puis c'est cool quoi.
Oui, voilà. Je
suis à poil d'ailleurs.
Bah, écoute, tu fais ce que tu veux après tout, hein.
Ouais, bah oui, ça reste raisonnable.
Donc, as-tu des projets en cours qu'on peut annoncer, d'autres moments où l'on va te voir, bientôt à l'écran peut-être ?
Très récemment, donc ouais, en effet, j'ai fait quelques publicités à Londres notamment. Je suis de plus en plus souvent à Londres, donc parce que ma compagne en fait habite à Londres, donc je vais à Londres environ une semaine à 10 jours par mois. Et du coup, elle est comédienne et productrice de cinéma, donc je travaille sur certains de ses projets. Et puis, en effet, là, il y a quelques, là, j'ai 3 tournages au mois de décembre à Angers. Donc qui seront sûrement diffusés l'année prochaine, une publicité puis 2 courts métrages. Après ouais, c'est toujours difficile de donner les noms des projets, etc. C'est histoire de pas porter malheur au projet, on en parle que quand ça sort quoi.
Et il y a, quel est ton rêve ultime, Quentin?
Mon rêve ultime? Non, honnêtement, mon rêve ultime, c'est plutôt d'arriver à un stade où de pouvoir vraiment choisir des projets qui ont du sens. Moi, au-delà de ça, dans les activités que tu as pu dire tout à l'heure de ce que je pouvais faire, j'ai envie de donner du sens à ce que je fais, c'est essentiel pour moi. Et du coup, j'aimerais un jour pouvoir jouer des rôles qui peuvent, entre guillemets, véhiculer des valeurs qui me semblent essentielles et positives, et qui peuvent potentiellement par la suite influencer certaines choses. Je pense que les artistes dans la société actuelle peuvent avoir un vrai apport et apporter des choses extrêmement positives, et j'aimerais potentiellement un jour pouvoir me dire que je peux apporter certaines choses, de pouvoir un jour arriver à un stade où en fait on peut transmettre certaines pensées qui aujourd'hui me sembleraient nécessaires et importantes dans la société dans laquelle on est.
Bon, en tout cas, on te sent passionné par ce que tu fais, par ce métier, et on te souhaite vraiment bonne chance pour la suite, en tout cas dans ce domaine. Et rapidement, en fait, c'est cette activité qui est le jeu d'acteur te sert sans doute pour d'autres secteurs, on l'imagine, car tu proposes notamment des formations et du coaching dans le milieu médical, hein.
Oui, en fait, dans le secteur médical, il y a plusieurs problématiques qui ont été citées ces dernières années, notamment le souci. En fait, on dit que les médecins apprennent à soigner les maladies, mais n'apprennent pas à soigner les malades. Et du coup, est venue la nécessité pour eux de s'entraîner à l'annonce, notamment de diagnostics graves, et donc de pouvoir s'entraîner dans le cadre de simulations de santé avec des comédiens. Et je travaille là-dessus depuis longtemps. J'ai créé des oraux en médecine qui ont été nationalisés. C'est absolument passionnant. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fait les examens de santé des 6e années de la faculté de médecine d'Angers, qui s'appelle les ECOS.
Ah, c'est top.
Ouais, et c'est absolument passionnant. Et oui, le métier d'acteur peut apporter énormément de choses, et pas en tant que métier. Enfin, moi, j'encourage toutes les personnes à faire du théâtre à un moment de leur vie, mais aussi plein d'autres activités en fait artistiques ou la philosophie ou la lecture en fait globalement, de manière globale, l'art peut apporter énormément, je pense, à tous, et je pense qu'on en a tous besoin.
Oui, ça me semblait important d'aborder cette casquette aussi de. Cette casquette que tu as, parce que tu en as plein d'autres, hein, tu exerces plein d'autres choses, et ils auront probablement l'occasion de te réinviter hein, pour tes autres domaines d'activité. Merci Quentin.
Je vous remercie. Allez. Merci beaucoup et bravo pour
merci Quentin.
Votre émission et la bonne ambiance et tout l'amour que vous apportez, c'est super.
Eh ben c'est top, merci de ces encouragements.
films sur les grands espaces. Moi, j'ai réfléchi et puis je vous ai sélectionné 4 films voilà, qui nous font voyager, qui nous font rêver, qui nous évadent. Alors, à chaque fois, je vais vous passer un petit extrait sonore et puis vous allez essayer de deviner le titre du film. Qui a été
alors moi je
par...
la connais ah. cette musique.
Hein?
Non, non, je la connais mais j'arrive pas à retrouver le titre du film.
Alors c'est une musique d'Eddie Vibber, donc c'est tiré du film Into the Wild.
Ah c'est ça ouais. Carrément.
Donc,
un film américain de 2007 réalisé par Sean Penn. Donc c'est l'histoire réelle de Christopher McCandless, donc qui était un étudiant de 22 ans. Aux États-Unis, qui du jour au lendemain, après ses études, a tout plaqué pour l'aventure. Donc, il est parti seul visiter l'Arizona, le Grand Canyon, la Californie. Il a côtoyé beaucoup de communautés hippies. Et puis un jour, il décide de partir en Alaska. Et donc il va rester bien 100 jours en Alaska, en pleine nature. Il va rencontrer des ours. Il se réfugie dans un bus qui est abandonné sur la route. Il va vivre 100 jours en plein hiver en Alaska. Donc il va découvrir la paix spirituelle et une sorte de paradis pur et sain. Alors, sauf que l'hiver en Alaska est très très rude. Et puis il va avoir la bonne idée de se nourrir de plantes. Mais il va se tromper de plante et il va finir malheureusement empoisonné parce qu'il s'est trompé de plante. Ouais. Donc le film est vraiment magnifique. Hein. C'est une ode à la nature. Est-ce que vous l'avez vu, les chroniqueurs?
Oui.
Bah oui, très 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 touchant. Effectivement.
Il m'a attristé aussi en fait. J'ai pas compris. Enfin, c'est de la solitude, quoi. Enfin, le gars, il est parti vivre seul, en fait, parce qu'il en avait marre du monde actuel, quoi.
Du monde occidental, du matérialisme et tout. Il a voulu, voilà.
C'est un côté aussi très dur, quoi. Justement, un peu triste pour moi.
C'est une histoire vraie, en plus.
Oui, c'est une histoire vraie, bien sûr.
Ouais. Mm-hmm.
Alors, un second film maintenant.
Danse des loups ?
Oui, Danse avec les loups. Alors le film.
Ah, c'est ça en plus.
Exactement. Le film est sorti quand même il y a 30 ans, en 1990. Donc un magnifique western de Kevin Costner. Donc c'est au 19e siècle, juste après la guerre de sécession. On suit un lieutenant nordiste, John Dunbar, qui demande sa mutation dans un avant-poste de l'Ouest sauvage. Donc il est complètement paumé dans une petite cahute et il va avoir pour compagnon Chaussette, un jeune loup solitaire. Et puis petit à petit, il va lier connaissance avec la tribu des Sioux qui habite juste à côté de son avant-poste. Et bien il va essayer de défendre et de protéger la tribu face aux Américains, enfin Européens qui commencent à déferler sur l'Ouest. Donc là aussi, un hymne à une civilisation perdue, à une ode à la nature. Le film a été tourné sur 4 saisons. Été printemps, été, automne, hiver, dans l'ordre chronologique. Il faut savoir Kevin Costner a eu le souci d'engager des vrais Amérindiens. Donc pas des rôles, tout fait. Il y a des vrais bisons. Petite anecdote, c'est que pour faire charger les bisons, enfin un bison dans une scène du film, en fait, il mettait un Oreo sur la caméra, parce que apparemment les bisons sont fans d'Oreo.
Oui,
le gâteau.
Donc dès qu'il voyait un Oreo.
C'est pas un Toreo ?
Un Oreo. Dès qu'il voyait l'Oreo, le bison chargeait sur la caméra pour manger l'Oreo. C'était la petite.
Attends, c'est dangereux ?
Ah oui.
C'est un peu dangereux.
Ah, le faut film, le savoir la prochaine fois qu'on mange un.
Le film a reçu une pluie d'Oscar.
De toute façon.
C'est devenu un classique du cinéma, de l'histoire du cinéma. Donc avec les loups, superbe film.
Troisième film, on écoute.
Là, c'est Émilie Simon qui a fait la musique, et c'est la musique de la marche de l'empereur.
Ah bah oui,
bah oui, normal.
Sûr.
Un documentaire de 2005. Donc
sur Napoléon.
Non, sur
non, Bruno, non.
Sur Star Wars plutôt.
Non.
Donc un documentaire de Luc Jacquet qui a obtenu d'ailleurs l'Oscar du meilleur film documentaire, donc il y a 15 ans. Donc le film a été tourné en Antarctique, donc au pôle sud, et le film traite des manchots empereurs et de leur mode de reproduction. Là on dit manchots, hein, c'est pas les manchots vivent au sud et les pingouins sont du nord. Et puis les manchots sont beaucoup plus grands que les pingouins.
Mais ils ont n'est-ce pas Bruno ?
Mais ils ont pas de main. Ah. Dans le film, il y a les voix de Roman Boringer et de Charles Berling. Et puis la version américaine, c'était, il y avait un seul narrateur, c'était Morgan Freeman. Il a fallu un an pour tourner ce film. Faut savoir que les caméramans ont même failli mourir parce que bon, les conditions sont effroyables là-bas. Il y avait quasiment un blizzard, on appelle ça le whiteout. C'est de la neige en suspension avec des vents, comme on dit Tony, de plus de 200 km/h. Et donc ils ont failli crever, hein, carrément. Donc voilà, donc les manchots, bah, ils affrontent le froid, le vent, les tempêtes. Il faut savoir que, alors pourquoi la marche de l'empereur ? Parce que les parents, en fait, les parents manchots sont, une fois que la mère a pondu son œuf, donc il y a des milliers de manchots qui gardent les œufs. Là, c'est toujours un couple qui garde les œufs. Donc ils sont à l'intérieur des terres. Et puis ils doivent faire des dizaines et des dizaines de kilomètres, enfin des centaines de kilomètres pour aller se ravitailler, enfin pour aller chasser le poisson. Donc ils vont pêcher sur le littoral et tout ça en marchant tout doucement parce que les manchots sont incapables de voler. Donc c'est ça, la marche de l'empereur, il marche voilà, à la queue leu-leu pour aller chercher les poissons et revenir. Et à tour de rôle, le père et la mère ben, protègent l'œuf et vont chercher le poisson dans l'eau. C'était une belle histoire.
Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est bien.
Alors, un quatrième film.
C'est le grand bleu.
Non, c'est les Schtroumpfs.
Ben oui, Raphaël. Heureusement que Raphaël.
Le grand bleu, c'est pas
les feux de l'amour.
Allez, c'est le grand bleu, le film de Luc Besson qui est tourné en 89, qui avait été présenté en avant-première au Festival de Cannes et qui avait reçu une critique mais absolument catastrophique. Le film avait été détesté par la critique et par contre, il avait obtenu un succès incroyable au box-office. Hein. C'est un film de génération, plus de 10 millions de Français l'ont vu à l'époque, hein. Maintenant il y a plus de 40 ans.
Ah ouais,
il y a plus de 30 ans.
La moitié des ch'tis quoi.
Donc le film est inspiré des vies de Jacques Mayol et de Enzo Mallorca, qui sont des champions de plongée en apnée. Donc, le film est culte, hein, musique d'Éric Serra, on vient de l'écouter. Dans les rôles, donc, bien sûr, Jean Reno, hein, c'était un de ses premiers rôles à l'époque, qui jouait le rôle de l'Italien. Et puis, bien sûr, dans le rôle de Jacques Mayol, le très beau et remarquable Jean-Marc Barre. Donc voilà, le film a été tourné en Sicile, en Grèce, des paysages méditerranéens.
Je ne connais pas du tout l'histoire.
Une beauté inouïe.
C'est vrai?
Un film sur la liberté.
Il meurt à la fin. Voilà, c'est fait.
C'est des poissons,
non? Il ressort.
Eh bien, justement, la fin, eh bien, Jacques Mayol bat le record d'apnée. Il s'enfonce dans les profondeurs de la mer et rencontre un dauphin et fin.
Ok. Donc là, tu viens de m'économiser 2h30 de film.
C'est ça.
Bon, ok, merci.
C'est ça. Donc merci Olivier, c'est fascinant, en tout cas ça fait rêver, ça redonne vraiment envie de revoir des classiques en fait, des grands films.
Tendance à me plaire.
Oh yeah. Bonsoir à tous. Eh bien oui, c'est ma première, c'est le premier Soso Touch. Alors juste, hein, je vous le dis, vous avez quitté libre ce soir pour me poser toutes vos questions. Eh bien non les amis, il n'y a pas de questions bêtes, enfin non, c'est bon, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je vous écoute, c'est parti pour la première question, Raphaël.
Éric voudrait avoir un conseil pour une recette raclette, avoir un petit détail supplémentaire pour que ces raclettes soient différentes.
C'est tout à fait une question tendance et merci Éric de l'avoir posée. Alors, Nous arrivons, vous le savez tous, à cette période de l'année où la raclette est le plat référence, hein, le plat convivial, le plat du partage entre amis, des pommes de terre, du fromage fondant et odorant, ou ensuite d'ailleurs tout à odeur de fromage. Donc Eric, merci de nous faire envie ce soir. Alors, vous avez sans doute envie de dire à Eric, mais Eric, t'as rien compris, on est en plein confinement. Et la raclette, c'est le plat référence, hein, le plat qu'on partage. Alors, rassurez-vous les amis, pas de soucis, malgré ces temps hein, où nous sommes tous éloignés, eh bien moi, je vous propose hein, de faire une raclette partie en visio. Eh bien oui, ça fonctionne tout pareil. Et l'avantage, c'est que vous avez les odeurs en moins, enfin, que les vôtres en tout cas.
Oui, voilà, on a les nôtres quand même, oui.
Et puis, il n'y a personne pour vous piquer votre portion ou votre raclon, votre poêlon, je veux dire. On n'a pas besoin de s'habiller ou bien pas besoin de tout ranger après une fois que les copains sont partis. Voilà, juste les copains en visio, chacun sa petite portion. Et du coup, on va pouvoir quand même partager tous ensemble. Et également, selon Jérémy, on peut aussi faire la raclette écolo avec la bougie, hein, si vous avez envie de tenter. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est tendance aussi. Alors, moi, j'ai envie de vous dire comment pimenter cette raclette. Eh bien, tout simplement, par exemple, pourquoi pas eh bien, avoir des pommes de terre violettes, hein, la vitelotte, qui va tout de suite donner un petit air sympa à vos patates avec le fromage dessus. Ou bien cuire également un petit œuf de caille dans votre poêlon. Et puis, pour ceux qui aiment le sucré salé, moi, j'ai une idée super sympa. Fromage à la truffe, agrémenté de carrés de chocolat aux noisettes, enrobé de petites pommes de terre sautées. C'est petit mignon, ça.
Bon, c'est plus de la raclette,
vous là. Vous
m'en
direz des nouvelles.
Oui, c'est bizarre, ça.
En tout cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, il y a un gros stress. C'est qu'il y a tout le monde qui se met à la raclette en ce moment. Et du coup, il risque d'y avoir pénurie de fromage à raclette. Alors, si vous voulez faire une raclette, c'est now ou peut-être jamais. Voilà, merci. Eric, merci pour ta question.
Et alors, une question de Karine, maintenant. Les dieux grecs existent-ils vraiment, Sonia?
Karine, ma chère Karine, il était grand temps que j'arrive et que tu me poses cette question. Comment as-tu pu passer aussi longtemps à côté de cette information? Mais bien sûr que les dieux grecs existent, hein, ils existent même plutôt bien d'ailleurs. Leur existence a été confirmée, validée et même plébiscitée en 2001, hein, presque 20 ans maintenant que chaque jour on peut admirer qui d'un Apollon, qui d'un Zeus, qui d'un Éole ou un autre Hermès. Je me suis moi-même empressée d'acheter cette première version de leur calendrier aux photos muy muy caliente, alors qu'il est sorti en 2001 et ils se prénomment d'ailleurs les dieux du stade. Hein, j'étais moi-même d'ailleurs plutôt fan de l'Apollon du mois d'avril sous sa douche avec de jolies fesses bien rebondies. J'en trépigne encore. Alors j'imagine que cette année encore ils vont nous faire rêver, ils vont nous faire transpirer et peut-être que vous pourrez faire votre commande au Père Noël en faisant un click and collect, hein, n'hésitez pas, ou bien en allant directement dans votre librairie préférée.
Moi, l'autre jour, j'ai eu un souci technique également, Sonia. Alors, comment transformer un fichier MP4 en MP3? Je t'ai posé la question, d'ailleurs.
Ah oui, alors là, merci Raphaël, parce que moi, je suis vraiment heureuse de savoir que je suis la référence pour toi pour traiter cette question dont tu penses bien. Ben, j'ai la réponse. Hein. Alors, voici mon conseil. Donc, pour les néophytes, je vais quand même traduire la question de Raphaël. C'est important. Alors, tu voudrais savoir, Raphaël, comment passer dans la liste, par exemple, de Bruno, de son MP4 à son MP3. Alors, c'est ça, hein, traduction. Comment passer du statut de meilleur pote numéro 4 à celui de meilleur pote numéro 3? Alors, pour monter en grade dans l'estime de Bruno, eh bien, bah, je sais pas, moi, tu peux essayer, par exemple, de lui offrir des cactus, un beau t-shirt, ou bien encore, tu peux lui faire ses louanges. Et promis, là, c'est sûr, hein, tu vas avoir toutes ses attentions et tu vas passer dans son cœur de la place de MP4 à celui de MP3. Hein. Et puis, mon Rafafa, je voulais quand même que tu saches que dans mon cœur, tu es mon MP1. Hein.
Oh, c'est trop mignon. Une dernière question, Sonia. Kevin92 hein, sur Insta, il veut draguer, il est célibataire. Est-ce que tu peux lui donner des conseils?
Alors, bonsoir, mon cher Kevin. Alors, rassure-toi, tu vas bientôt trouver ton ou ta moitié. Il faut que tu le saches, cette année 2020 est placée sous le signe des 13 lunes. Et ça, c'est plutôt un signe positif. Qui dit 13 lunes dit que nous sommes sous le signe du taureau. Hein, en opposition, on verra le soleil sous le signe du scorpion, par contre. Alors, résultat de ces alignements, force, volonté et surtout passion. Hein, ça te fera ressentir particulièrement donc dans le domaine amoureux. Alors Kevin, une fois que le confinement sera terminé, nous serons sûrement en 2021 pour le déconfinement. Et là, par contre, ce sera une toute autre année, hein, avec seulement 12 lunes. Et là, pour le coup, bah, y a rien de gagné, je suis désolée. C'est dommage, t'as loupé le coche pour 2020. Il faudra attendre un cycle de 19 ans avant de rencontrer ta dulcinée. Je suis désolée, mon petit Kevin, c'est pas de ma faute si on est confiné. Tu vois ça avec Macron. Voilà. Bonne soirée à tous. Moi, je ne suis pas Madame Irma non plus, donc je peux pas tout gérer. Voilà.
Merci Sonia. Alors en tout cas, si vous avez des questions à poser à Sonia, donc elle peut répondre, à trouver des réponses personnalisées pour vous. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à lui envoyer un petit message.
Alors exactement.
Si on a le temps, mais je crois qu'on a un petit bêtisier, parce qu'on a préparé longtemps cette fameuse chronique.
La référence. Alors des pommes de terre, du fromage fondant, déodorant. Voilà. Ou ensuite. Je ne peux pas me raccrocher. Ça ne voulait pas se mettre dans la salle. Dans une odeur fromage. Comment je mets dans l'or tout ça?
Ah oui, effectivement, oui. C'est
un petit fou rire.
C'est compliqué.
Ça fait du bien.
Merci, Sonia.
Bonsoir.
Allez, maintenant.
So nice, so nice, so
Donc aujourd'hui, nous recevons Pauline Prodhomme, enquêteur de droit privé ou détective privé, c'est un terme plus connu. Alors, quelle est la journée type d'un détective? Comment devient-on détective? Eh bien, réponse tout de suite avec Pauline. Et que, et vous le comprendrez, vous ne verrez pas ni en photo, ni en vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, mais avant d'en savoir plus, revenons sur les indices sonores quand même. Le premier indice, est-ce que vous aviez reconnu, Pauline, peut-être?
Si, c'était Sherlock.
Sherlock Holmes.
Les films.
Voilà, effectivement. Le deuxième indice, on parle de cache-cache. La troisième indice, la panthère rose. Vous avez hoché de la tête, Pauline?
Si, oui, ça. Bah, c'est les clichés.
C'est un peu les clichés, voilà. Et puis le générique de la série Trou Détective, le quatrième indice. Mmh. Voilà. Alors j'ai quand même un petit cadeau pour vous en plus.
Mais elle sait tout de nous, alors ça se trouve. Hein.
Voilà.
Elle nous a stalké avant
alors,
de venir.
Je vais le montrer.
Puisque,
effectivement, je vous donne un masque pour c'est vous gentil. Cacher. Alors, Pauline, donc vous avez.
Là, c'est là qui va passer
bon, juste pour une photo, alors. Juste pour une photo.
Effectivement, c'est
alors,
un peu joli.
Alors, je vais mettre le masque. Alors, vous verrez sur les réseaux sociaux, hein, c'est le masque des pirates informatiques. Voilà, qu'on voit partout.
Elle a son bon jeu à fond.
Et là, c'est sûr, elle va passer inaperçue.
Ah, inaperçue. Hein. Donc là, on prend la photo. Voilà, c'est bon. Hop, c'est bon, on peut l'enlever.
Alors, donc, Pauline, vous avez 27 ans. Vous exercez depuis 3 ans cet intrigant métier. Alors, première question, comment vous est venue cette idée, cette envie d'exercer ce métier, Pauline?
Depuis toute petite, j'aime chercher, trouver le comment, du pourquoi. Et puis, bon, l'idée m'est pas venue quand j'étais jeune, hein, c'est très récent. J'ai fait des études de droit et puis c'était essentiellement pour entrer dans la police ou dans la gendarmerie. Mmh. Et puis je me suis vite rendu compte en faisant des stages et en ayant des avis extérieurs, des professionnels aussi de ces métiers-là, que ça ne me correspondrait pas du tout au niveau de ma personnalité. Et donc je me suis retrouvée à trouver ce métier sur internet et puis je me suis dit,
ça vous a fait tilt.
Ouais c'est vrai. Ouais.
Du coup vous avez décidé de poursuivre une formation spécialisée. Alors je ne savais pas qu'il existait ce type de formation. Donc il y en a beaucoup en France.
Il y en a 4. Seulement.
D'accord. Donc 4 seulement
c'est,
en France.
C'est pas énorme.
Donc vous avez fait 2 ans de formation. Ouais.
Une à Montpellier, donc ça c'est une école privée. Il y en a une à Nîmes, ça c'est l'université. Et 2 sur Paris, dont une école privée et une université. Et donc moi j'ai choisi l'université de Paris Assas.
Avec au bout donc un DU enquêteur privé.
Un DU en première année, un DU enquêteur privé. Et la deuxième année c'est une licence professionnelle directeur d'enquête.
D'accord. Donc, et après ce diplôme, on est référencé auprès du ministère de l'Intérieur. Comment ça se passe? Vous avez un agrément, une carte?
Non, pas tout de suite. En fait, il faut valider ce diplôme et aussi faire des heures de stage. Ensuite, on demande au ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est pas vraiment le ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on appelle le CNAPS. C'est le Conseil national des activités privées de sécurité qui nous régule et qui nous donne les autorisations, dont l'agrément et l'autorisation d'installer un cabinet.
D'accord, donc un cabinet que vous avez ouvert sur Angers.
Voilà.
Donc on a tous une image du métier, notamment via les séries, les films, mais dans la vie réelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment expliquez-vous ce métier, votre métier?
C'est un métier de droit, mmh, à la base. Je pense que si on fait ce métier-là, il faut avoir des connaissances en droit, sinon c'est pas possible, on peut pas l'envisager en tout cas. Après c'est un métier où il y a un petit peu d'adrénaline forcément. Et puis après que dire,
il n'y
a pas de routine,
hein.
Voilà, différentes enquêtes, c'est jamais les mêmes enquêtes, donc la routine.
Qu'est-ce
elle
qui fait qu'on
pas.
Pourrait penser dire bah tiens je vais appeler une enquêtrice privée pour quel type de mission, quel type d'action?
Sonia, tu me trompes.
Ça, est-ce qu'on peut donner des exemples de dossiers d'enquêtes sur lesquelles vous travaillez?
Les enquêtes, alors on peut travailler avec des professionnels, donc chefs d'entreprise. Donc là, j'en ai plus dans le contentieux du droit du travail. Donc, par exemple, un salarié qui commettrait une erreur en droit social, travail au noir, concurrence déloyale, les arrêts de travail abusifs.
D'accord.
Et puis après, ça peut être des particuliers. Là, après, le champ est très large aussi. l'adultère, les contentieux en matière de divorce, par exemple établir les moyens financiers et les modes de vie des époux pour que le juge puisse ensuite établir une prestation compensatoire, un montant sur des pensions alimentaires, etc.
Oui, donc c'est très sérieux, effectivement. Oui.
Et tout ça, c'est valide, effectivement, après, quand on présente...
Oui, donc à chaque enquête, on doit fournir un rapport circonstancié et détaillé au client qui pourra l'utiliser devant tous les tribunaux.
C'est quoi, là, la frontière entre votre métier et huissier? Parce que, genre, les contrats d'adultère, je pourrais expliquer
avec les huissiers. Oui, mais après, je connais moins bien la profession de huissier. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quand même, mais c'est vrai que nous, on est habilités à faire de l'enquête, chose que eux ne peuvent pas faire. Eux, ils sont essentiellement là pour faire des constats. Donc après, ils peuvent effectivement, on peut faire appel à eux pour appuyer les dossiers, mais ils peuvent aussi faire appel à nous pour des enquêtes plus approfondies, en tout cas.
Mais je vais aller dans les clichés. Alors, est-ce que ça vous arrive d'espionner, alors je mets ça entre guillemets, des gens dans votre voiture avec des jumelles? Vraiment, je suis dans le cliché. Oui. Hein, mais est-ce
espionner,
que ça vous arrive,
oui,
comme
c'est
ça?
Pas forcément le mot. Moi, j'en dis toujours le mot enquêter, parce que j'ai toujours... j'espionne pas n'importe qui. Je veux dire, je diligente une enquête, mais à la base, il y a quand même un problème de droit, un contentieux avec le client et sa cible, et la cible. Donc j'espionne, oui, on va dire que ça peut être le mot, mais les jumelles, non, j'en ai même pas. Appareil photo et caméra, oui.
D'accord, carrément. Et puis voilà, internet, j'imagine, des objets.
Oui, les réseaux sociaux, moi ça me...
Ah, les réseaux sociaux.
C'est passionnant pour moi.
Ah oui,
j'apprends beaucoup de choses, ouais. Ouais,
ouais, ça m'étonne pas. Mais est-ce que vous avez déjà eu peur lors d'enquêtes un peu difficiles, avec des situations délicates? Est-ce que ça vous arrive?
Non, après, peut-être parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir des enquêtes voilà, très complexes, on va dire, de nature à ce que j'ai peur, en tout cas. Mais je suis pas trop... Je suis plus téméraire, j'ai pas trop peur en général, donc je suis un peu plus fonceuse. Donc je vois.
Vous avez une formation quand même pour vous défendre physiquement, parce qu'il peut y avoir quand même des agressions physiques. Vous énervez des gens quand même.
Ouais, mais les gens sont pas censés me voir, donc en général, non, je me suis jamais fait détroncher, c'est comme ça qu'on parle.
Ah, c'est sympa ça.
Pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion. Après, j'ai pas de formation pour. On nous apprend pas à nous défendre, entre guillemets. C'est pas ça le but du métier, mais. Ah non, on n'a pas le droit d'en avoir.
Et quelles sont les qualités requises pour être un bon détective?
Je dirais curieux de nature.
Oui, forcément.
Voilà, un petit peu quand même.
Discrétion, j'imagine.
Discret, oui. Bon, après. Tout est relatif, mais rigoureux aussi. Ouais, il faut être totalement rigoureux, que ce soit avec le client en rendez-vous, mais aussi en enquête.
D'accord.
Donc, pour moi, je dirais oui, rigoureux, c'est la principale compétence qu'on pourrait.
Mais ça vous arrive d'être en concurrence avec la police ou d'avoir des contentieux avec la police?
Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé.
Ils vous demandent des choses ou?
Bah. En fait, nous, on est les enquêteurs privés, on est plus du côté civil et commercial dans la partie du droit.
Vous faites pas de crime de sang ou de choses comme ça.
Voilà, les policiers et gendarmes sont plus du côté pénal. Donc c'est vrai que nos deux domaines
se complètent
à la fois, mais eux aiment pas forcément travailler sur les adultères ou ce genre de choses. C'est pas leur domaine. Donc, je peux être aussi amenée à travailler sur des contre-enquêtes pénales.
D'accord.
Donc,
quand on a l'impression que ça n'avance pas, demander à quelqu'un d'aller chercher des informations.
Oui, après, on n'a pas intérêt à interférer avec les gendarmes ou les policiers, mais en tout cas, c'est plus lorsqu'une enquête est terminée et jugée et que la personne qui a été condamnée souhaite faire réviser, par exemple, son procès.
Ou... Ouais, okay.
Et dernière question, Pauline, qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît plus que tout?
Tout. Non, il n'y a pas de routine, donc en fait c'est ça qui est intéressant, quoi. Je me lève le matin, je sais pas sur quoi je vais aller, je sais à peu près, mais je sais pas comment va se passer ma journée, donc c'est ça qui est intéressant, je trouve.
D'accord.
J'ai le temps pour une question ou pas?
Une dernière vite fait, Karine.
Quand vous avez un client qui vient vous voir pour une demande précise, est-ce que vous vérifiez par des protocoles enfin la crédibilité aussi de ce que dit le client, parce que des fois vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous ment complètement pour tourner sa problématique à son avantage? Est-ce que le client peut vous vous balader comme il veut, ou est-ce que vous vous êtes, vous allez vraiment voir sa crédibilité sur sa demande?
Alors après, ça dépend sur quoi. De toute façon, lorsque, enfin, sur des enquêtes précises, par exemple sur des recherches de personnes où les gens vont me demander si on peut rechercher telle ou telle personne, je vérifie toujours en amont la légitimité, c'est-à-dire quel rapport il a avec cette personne et le pourquoi du comment. Parce que si je donne, par exemple, déjà en plus on ne peut pas, mais je ne suis pas habilitée à donner directement l'adresse ou le contact à mon client. Je dois d'abord demander à la cible, à la personne recherchée, s'il souhaite reprendre contact avec mon client.
D'accord.
Je dois toujours demander, on est sur le respect de la vie privée, donc après...
Moi j'avais une question vite fait, est-ce qu'il y a une enquête, un truc assez qui change un peu de l'ordinaire, rechercher une personne peut-être disparue, quelque chose comme ça,
ou c'est atypique,
atypique, non?
Oui, après c'est, tout est différent à chaque fois.
Parce que là, par exemple, on recherche Caro et Manu. Elles sont pas venues ce soir. Et on voudrait savoir si vraiment elles avaient une excuse ou si.
Pas d'excuse.
Ouais, je crois que c'est.
L'enquête du Mon Chéri. Pourquoi existe-t-il encore ?
Eh bien. Merci Pauline.
Merci
donc pour ceux qui veulent faire appel à vos services, rendez-vous sur votre site internet qu'on peut donner à l'antenne.
Oui, bien sûr.
Donc cabinet-ictis.fr, on mettra le lien sur les réseaux sociaux. Merci de vous être prêté au jeu de l'invité mystère, c'était très très intéressant. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments forts vécus en studio. C'était un best-of de l'émission Tendance à me plaire. On espère vous retrouver très bientôt pour une émission inédite. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Tous les amis. FM.